BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 9h33, on est toujours en direct du Parc Jourdan, ici à Aix-en-Provence, pour la journée de clôture des rencontres économiques. On est encore ensemble pour une demi-heure de débat et de controverses avec le plus beau des plateaux. Deux jeunes meilleurs économistes français autour de la table, Alexandra Roulet et Xavier Jaravel, tous les deux membres du Cercle des économistes, un ancien ministre de l'économie et des finances, Éric Lombard, et mon comparse Ludovic de Sauté, directeur délégué de la Tribune. On a beaucoup parlé création de richesse et partage de la valeur. Ça fait partie des sujets cœur chaque année ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. On va maintenant s'intéresser au modèle économique américain. Aujourd'hui est une date particulière, nous sommes le 4 juillet et les États-Unis célèbrent les 250 ans de leur indépendance. Et en 20 ans, il faut le dire, leur économie s'est réinventée comme ils savent le faire de manière incroyable, de manière parfois plus véloce et plus agile que nous, la vieille Europe. Leur économie s'est réinventée autour de la technologie, de l'énergie, mais aussi de la dette, cette dette qui court aux États-Unis. L'Europe, l'Amérique est-elle ainsi devenue plus puissante, ou alors est-ce qu'elle a encore quelques fragilités qui risquent de la pénaliser à l'avenir? Allez, honneur aux dames, je commence avec vous, Alexandra. Qu'est-ce que vous tirez de l'évolution du modèle américain ces 20 dernières années? Est-ce qu'elle est plus puissante aujourd'hui qu'au début des années 2000?
Non, je pense qu'elle est moins puissante aujourd'hui qu'au début des années 2000 parce qu'il y a eu entre-temps la montée de la Chine. Donc évidemment, elle avait une hégémonie pendant plusieurs décennies et maintenant le monde est dominé par ce couple en fait américano-chinois. Et les Chinois, sur le secteur technologique qui fait quand même la force des États-Unis, sont devenus tout aussi leaders. Il faut quand même, on n'est plus dans la Chine qui est dans une économie de rattrapage. Les Chinois sont devenus extrêmement puissants aussi technologiquement. Et donc il y a un espèce de contre-modèle américain qui s'est développé à l'autre bout de la planète. Donc je pense que de ce point de vue-là, l'Amérique est moins puissante. On voit même que quand l'Amérique intervient militairement, comme ça a été le cas en Iran,
oui,
l'Amérique est moins puissante que ce qu'elle aurait pu espérer.
Oui.
Donc, y a ça. Il y a le fait que l'Amérique, sur tout un tas d'indicateurs importants, a même régressé. On est quand même sur un des rares pays où on a, pour certains groupes, l'espérance de vie qui diminue.
Enfin, absolument. Je veux dire,
c'est quand même assez alarmant.
Oui.
On est beaucoup à... On n'aimerait pas vivre aux États-Unis. Donc, pour tout un tas de raisons. Donc, qui tiennent quand même à la valeur, à l'attractivité du pays. Les États-Unis avaient une grosse force, et a toujours une grosse force, c'est sur le plan technologique. C'est ça qui tire la différence de PIB par habitant et de productivité que Xavier rappelait à juste titre en début d'émission. Donc les États-Unis sont plus riches, ça c'est toujours le cas. Ils ont toujours cette capacité d'emprunt, et on va y revenir, qui leur permet d'avoir un déficit. Ils avaient un autre très gros atout qui était donc les universités, mais sur lequel quand même Donald Trump est en train de donner...
On parlait à l'imparfait.
Bah oui.
Ils avaient.
Ah oui.
Ça n'est plus le cas.
Ah bah... Parler à Nîmes. Là, il y a ici aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence des professeurs d'Harvard, des professeurs de certaines universités.
Oui.
Voilà, ils sont extrêmement inquiets. Ils te, c'est les coupes, les licenciements, c'est de l'ordre de. Ils ont des licenciements de staff de l'ordre de 25%. Ils peuvent dégel sur les embauches. Ils peuvent pas embaucher de post-doctorants. Ils ont les budgets de recherche qui sont complètement coupés. Ils doivent trouver se tourner vers d'autres financements. Donc non, le modèle de recherche américain est sérieusement mis à mal par Donald Trump.
C'est
intéressant. Et c'était un des gros atouts. Sans parler de la politique, évidemment, d'immigration, parce que le modèle reposait quand même sur le fait de faire venir les talents du monde entier. Donc quand ça devient très restrictif, c'est compliqué. Et donc on ne voit pas forcément les effets tout de suite, parce que la recherche, ça prend beaucoup de temps, comme vous savez. Mais ça, c'est vraiment... il s'est tiré dans le pied. Il a tiré dans le pied des adultes. Donc je pense qu'il faut porter quand même un regard très nuancé, sans parler de toutes les considérations politiques, sur le modèle américain. Mais il faut leur reconnaître qu'en termes de PIB par habitant et de technologie, évidemment, ils nous dominent complètement et c'est là qu'il faut qu'on rattrape notre retard.
Xavier Jaravel.
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Alexandra sur ce regard très nuancé. Peut-être du coup pour prolonger la nuance sur deux points. Sur l'aspect domination technologique, bon, on rappelait les chiffres tout à l'heure, 40% de PIB par habitant plus en Europe, c'est ce qu'on aurait
et 80%
eu si on avait eu le même
de
niveau de croissance de la productivité qu'aux États-Unis.
Et 80% de nos services numériques en Europe qui
donc
sont.
En plus, on a une forte dépendance technologique.
Hein. Et
souvent, quand on pense technologie, on pense géant du numérique, qui évidemment joue un rôle essentiel. Mais en fait, c'est qu'un quart de cet écart de productivité qui vient des géants du numérique eux-mêmes, de ces producteurs de nouvelles technologies. Le reste vient d'une moindre adoption, d'une diffusion plus lente de ces technologies. C'est le cas dans les années 90, 2000, 2010 sur les technologies de l'Internet, la communication. Et c'est le cas aujourd'hui, c'est ce qui est en train de se dessiner sur l'IA générative.
Donc trois quarts, le fait qu'on ait un taux d'utilisation de l'IA et de pénétration de l'IA dans les entreprises.
C'est ça qui, au final,
trois quarts du recul de votre productivité.
La productivité. C'est ça le nerf de la guerre. Bien sûr, ce n'est pas indépendant, parce que si vous diffusez des technologies américaines, vous renforcez aussi votre indépendance. Mais c'est d'autres pratiques managériales qu'il faut avoir pour diffuser ces technologies. C'est d'autres, peut-être, outils de politique publique aussi qu'il faut avoir pour accompagner.
Mais c'est plein de belles promesses. Ça veut dire qu'on a des marges de progression.
Ça veut dire qu'on a des marges de progression.
Assez rapidement, voilà. On peut quand même accélérer.
Absolument. C'est bien d'avoir ce verre à moitié plein. Le premier point. Et ensuite, peut-être le deuxième point. Donc, tout à fait d'accord avec ce que disait Alexandra sur les effets à long terme qu'on peut craindre, qu'on peut anticiper pour les États-Unis, sur l'immigration qualifiée. Sur l'université et la recherche, je pense que je reste peut-être un peu moins pessimiste que toi, Alexandra, parce qu'ils ont une telle avance que même avec les quelques coupes qu'ils ont actuellement, ils restent incroyablement mieux financés. Et on a d'ailleurs vu très très peu de chercheurs décider de passer de l'autre côté de l'Atlantique, y compris des Européens et des Français. Donc je pense que ça reste quand même un pays qui investit beaucoup plus dans l'avenir, un pays qui investit beaucoup moins dans la protection sociale, et ça on doit le regretter, mais il me semble que les deux sont... Et donc on doit apprendre des États-Unis la partie plus investissement dans l'avenir, dans la recherche notamment.
Ben oui. Et Philippe Aguillon, encore ce matin, défendait le modèle d'une DARPA européenne pour financer l'innovation. Ludovic, avant de passer à Éric Lombard, même question.
Je vais mettre sur un autre terrain peut-être, mais parce que je pense que ça fait partie d'éclairage, c'est-à-dire que quand même un pays qui était perçu comme attractif, une sorte d'aimant, de libre-échange et tout ça, tout ce qui a été décrit avec merveille par Alexandra, c'est-à-dire que c'est vraiment là, on a un changement sur l'immigration, sur le protectionnisme, enfin je veux dire le commerce est devenu maintenant un objet de sécurité nationale. Je vais partir de quelque chose d'assez basique et je vais observer ce qui se joue chez moi avec des ados. C'est surtout un pays qui fait de moins en moins rêver. Et ça, c'est un changement fondamental parce que on a été une génération, les États-Unis nous ont bercé, je le vois par extension dans toute une génération qui va vous parler de K-pop, de Corée, de Japon et qui regarde vers l'Asie, là où le soleil se lève.
Et oui.
Et le soleil est en train de se coucher de l'autre côté de l'Atlantique. Et ça va être un grand changement pour les États-Unis parce que le rêve américain était une réalité aussi. C'est-à-dire que c'était une zone d'attraction. On va parler de la finance après sur laquelle ils jouent gros. Mais attention parce que dans la grande histoire américaine, il y a cette notion de rêve et sur lequel la génération qui arrive, ils n'achètent plus. Et c'est un grand changement.
Oui, c'est intéressant de le noter. Eric, vous connaissez très bien ce pays, vous y avez travaillé. Vous étiez à New York le 11 septembre 2001. Quel regard vous portez sur l'évolution
Tout ce que vous avez dit est vrai, mais malgré tout, d'abord, sur la planète, c'est quand même toujours les États-Unis les patrons. Pardon, mais quel pays peut se permettre d'aller renverser le chef d'État du Venezuela, d'aller faire une guerre sans aucun dialogue préalable, sans aucune justification politique autre que finalement, voilà, on a décidé d'aller bombarder l'Iran. Immense pays, grande culture, dont le régime est épouvantable, ça n'est pas la question, je ne défends pas ce régime, mais je défends des règles du jeu mondial où on ne fait pas la guerre comme ça parce qu'on a décidé ça le matin. Maintenant, il s'attaque à Cuba.
Voilà, on Cuba maintenant, et on l'a vu au G7 arriver en disant « I'm the boss ».
J'étais hier à côté du Premier ministre du Groenland. Enfin, quand même, heureusement que l'Europe a réagi avec beaucoup d'énergie. Oui. Parce que, contrairement à ce qu'on a dit, envoyer des militaires au Groenland, c'était un signal stratégique qui a été suffisant et qui a été très bien fait. Mais ce sont eux qui sont en charge. Deuxièmement, leur avance technologique, leur capacité d'adaptation, quel que soit le régime politique, est quand même quelque chose de faramineux. Alors c'est vrai que le blocage des frontières, le fait de ne pas recruter d'étudiants étrangers, c'est une folie, mais je pars du principe que cette folie ne va pas durer, qu'ils vont continuer dans la longue durée à attirer les talents du monde. En face, effectivement, la Chine n'est plus dans une situation de copie, de rattrapage, ils sont même en avance dans beaucoup de domaines, mais la Chine a un problème démographique dramatique.
Oui.
C'est que la Chine va avoir une population qui va baisser très rapidement.
Divisée par deux d'ici 2100.
À la fin, dans la vie et dans la vie économique notamment, qu'est-ce qui commande ? C'est la démographie. Si on n'a pas de démographie, on disparaît. Donc, moi, je pense qu'il faudra compter avec les États-Unis et que dans la réflexion sur le rattrapage européen qui est absolument indispensable, si on ne fait pas ce rattrapage on aura effectivement des difficultés parce que c'est devenu un pays beaucoup moins allié et beaucoup moins en soutien. Et je terminerai là-dessus, notamment sur un plan défense, sur un plan militaire. Moi, je suis consterné de voir nos responsables, y compris en France, continuer à dire « Non, non, mais quand ce sera sérieux, il y aura les États-Unis d'Amérique. »
Est-ce que c'est un partenaire fiable encore aujourd'hui?
Non, mais regardons l'histoire. Quand il y a eu 1914, ils sont arrivés en 1917. Quand il y a eu 1939, ils sont arrivés, et parce qu'il y a eu Pearl Harbor, ils sont arrivés en 1944. Donc, moi, je ne considère pas que l'OTAN, avec les États-Unis, est un parapluie absolu. Nous devons rester dans l'OTAN, nous devons continuer à travailler avec eux, mais nous devons, y compris sur les questions de défense, être capables d'autonomie. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas capables d'autonomie stratégique et militaire, ou plutôt nous en sommes capables compte tenu de la force de nos armées, de nos technologies, mais nous n'avons pas la gouvernance politique qui nous donne cette autonomie. Et ça, c'est un immense chaînon manquant dans le paysage du dialogue avec les États-Unis. Encore une fois, ne pas le faire contre les États-Unis, mais nous dire s'ils nous lâchent. Et sur l'Ukraine, franchement, au début, ils ont failli nous lâcher.
Oui.
J'étais dans les premières réunions avec le gouvernement américain. Ils ont eu un moment d'hésitation stratégique. Et ils sont tombés du bon côté. Ils tomberont peut-être pas toujours du bon côté.
Oui, enfin, les financements sont jamais venus. En plus, il a fallu...
Et les financements ont été coupés. Et c'est l'Europe qui a fait les financements et qui a eu raison de le faire. Et c'est l'Europe qui accompagne. Alors, cela dit, s'il n'y avait pas Starlink qui aide l'Ukraine et qui n'aide pas les Russes, voilà. Donc, les États-Unis font des choses importantes malgré tout. Mais il n'est pas, c'est pas une donnée de la science politique. Ils le feront durablement. Et ça, c'est une immense faiblesse si on ne la traite pas rapidement.
Bon, est-ce que les États-Unis vont pouvoir continuer à vivre à crédit de manière indéterminée, Xavier Jaravel?
L'avantage des États-Unis, c'est ce qu'on dit, c'est cette domination technologique qui est des taux d'imposition relativement faibles en comparaison internationale. Et donc ça, c'est de nature vraiment à rassurer les investisseurs. Vous avez une croissance assez soutenue, vous avez des tendances démographiques plus dynamiques qu'ailleurs, et donc vous avez un réservoir de recettes fiscales qui en principe peut vous permettre de résorber un jour votre déficit. Et c'est toujours le débat sur la soutenabilité de la dette. Vous pouvez toujours, en principe, plus tard faire mieux, jusqu'au moment où vous allez lâcher le ballon et ne plus pouvoir l'attraper. Mais voilà, il y a cette croissance plus élevée, et cette dynamique qui continue et donc qui rassure les investisseurs.
J'ouvre une toute petite parenthèse sur la question démographique. Est-ce que cette dynamique est due à l'immigration, ou est-ce qu'ils arrivent à maintenir un taux de natalité? Je veux dire, tous les pays développés voient leur taux de natalité s'effondrer.
Le taux de natalité s'effondre un peu moins qu'ailleurs. Et par ailleurs, il y avait aussi une immigration plus dynamique et plus qualifiée qu'ailleurs.
Bon, c'est peut-être la confiance en l'avenir qui fait que... voilà. Alexandra, même question.
Juste sur le rôle du dollar et la capacité des États-Unis à se financer comme ça vis-à-vis du reste du monde, ça dépend aussi un peu des alternatives. Donc, c'est-à-dire que ça dépend aussi un peu de ce qu'on fait en Europe. Si l'euro peut devenir monnaie de réserve, si on fait l'union des marchés de capitaux, etc., ça a des répercussions aussi sur les États-Unis, parce que tout ça est un jeu. Ça dépend bien sûr de ce qui se passe dans le reste du monde. Donc nous, je pense que on doit évidemment, et par rapport à tout ce qui a été dit, que je partage, enfin du point de vue de nous Européens, ce qu'on doit faire, c'est absolument se construire aussi fortement qu'on peut pour en effet ne pas dépendre des États-Unis, qu'ils soient fiables ou pas, on pourra jamais parfaitement le prédire, mais en tout cas on ne doit pas s'attendre à ce qu'ils nous défendent nécessairement. Donc il faut qu'on soit souverain de ce point de vue-là, et puis il faut qu'on soit fort économiquement pour peser, ne serait-ce que parce qu'on veut pouvoir dans les discussions internationales infléchir les discussions vers les endroits qui nous importent, par exemple la transition climatique. Maintenant ils s'en fichent, nous c'est quelque chose qui nous semble important. Si on veut peser dans ces discussions, il faut qu'on soit respecté économiquement.
Ben oui, ça c'est le quid du réveil européen, hein, Ludovic, puis Eric, qu'on attend toujours. On a tout le mode d'emploi, si je puis dire, avec les rapports à l'État et Draghi. L'implémentation, c'est plus compliqué.
J'entends, d'ailleurs, nos remarques sont assez convergentes, mais je pense aussi qu'il y a un point commun, c'est-à-dire que c'est quand même, tendanciellement, c'est un pays qu'on comprend de moins en moins bien, en fait. C'est-à-dire que c'est pas... Ce qui se passe avec Trump, il y avait déjà des signaux annonciateurs qui précédait, c'est-à-dire que c'est pas Trump n'est que le résultat d'une séquence, j'allais dire, malheureusement. Et là, Eric, je suis pas d'accord avec vous, parce que je pense que c'est beaucoup plus profond que vous, c'est-à-dire que peu importe, malheureusement, résultat de l'après-Trump, il y a quelque chose profondément qui a changé dans le logiciel américain. C'est un pays qui s'est éloigné. Alors la question sur laquelle on partait, c'est la notion de, j'allais dire, de dette. D'abord, faut espérer que les États-Unis s'en sortent, parce que, j'allais dire, s'ils s'en sortent pas sur la dette, on peut être bien en Europe, hein, vu c'est le premier effet, parce que le château de cartes va être très compliqué vu le côté européen. Maintenant, et je vais positiver, vous allez dire ça y est, repartir en bisounours. Je pense qu'il y a une énorme fenêtre d'opportunité pour l'Europe entre ces deux blocs dont parlait Alexandra, la Chine et les États-Unis, c'est-à-dire que l'Europe a vraiment une capacité à devenir un modèle attractif au plan économique, mais aussi au plan civilisationnel, ce qui est tout aussi important.
Il y a des valeurs, en tout cas.
Non, mais il faut le dire. C'est-à-dire que il y a un récit européen aujourd'hui qui peut être une contre-proposition, mais une contre-proposition assez fondamentale. À nous de la saisir. Hein. C'est une magnifique fenêtre d'opportunité, je le crois profondément.
Cette politique de America First, les Américains d'abord, elle date pas de Donald Trump. Hein. On a commencé avec Barack Obama, en réalité, ce recentrage des États-Unis sur eux-mêmes.
D'abord, historiquement, il y a toujours eu des phases de recentrage depuis 250 ans, puisqu'on célèbre aujourd'hui les 250 ans. Et cette séquence a été ouverte très clairement par Barack Obama. Je rappelle que Barack Obama a organisé le pivot vers l'Asie, que quand le président Hollande, très courageusement, a voulu sanctionner la Syrie de Bachar el-Assad, qui avait gazé sa population, et la France était prête à y aller, mais avait besoin du soutien américain, et ce sont les Américains qui ont empêché qu'on manifeste, qu'on mène cette action qui était nécessaire. Donc effectivement, ça dure, et ça va durer pendant encore un certain temps. C'est pour ça que je pense que dans la durée, il faut qu'on devienne stratégiquement indépendant. Je veux revenir sur la question des finances publiques que vous avez évoquée, qui est un sujet qui m'est cher.
Oui.
Quand j'en parlais avec Scott Bessent, ce qui était le secrétaire au trésor
américain,
ce qui est complètement fascinant, c'est qu'on a quasiment les mêmes chiffres en matière de finances publiques. L'année dernière, ils étaient à 7% de déficit, nous étions à 5%, voilà. Ils sont à plus de 100% de dette sur PIB, nous, oui, on est à plus de 110%. Et en plus, leur taux d'intérêt à long terme...
Mais même à 117, on approche les 120, là.
Oui, ouais. Oui, j'essaie d'être modeste.
Ça va vite, oui.
Et leur taux d'intérêt à long terme sont plus élevés que les nôtres.
Oui.
Mais en face, ça crée de la croissance.
Eh oui.
Ça crée de la richesse, alors que nous, une bonne partie de ces déficits, c'est pour financer les retraites et nos dépenses,
oui,
de santé, qui sont des dépenses légitimes.
Oui.
Mais il faudrait réfléchir à un financement plus durable. Et ça, c'est très intéressant, je trouve, comme quoi sur la soutenabilité du modèle, effectivement, nous, on sera en butée de soutenabilité bien avant, compte tenu de l'utilisation de cette dette, alors que sur les États-Unis, la question ne se pose pas, ou peut-être presque pas. Parce que je veux rappeler qu'en avril dernier, il y a un an, le moment du Liberation Day,
oui,
quand Trump a tapé trop fort sur les tarifs, ils ont frôlé l'incident de marché, qui aurait été pour le coup un incident planétaire. Et pendant deux jours, on s'est demandé si les marchés obligataires américains n'allaient pas...
À deux ou trois reprises, hein, les taux longs ont touché les 5%, et à chaque fois, Trump a reculé. Hein,
et Trump a reculé à chaque fois parce que... Comme l'ont dit les économistes américains, l'homme le plus puissant du monde, c'est le marché financier américain.
Si je devais me réincarner, ce serait en marché américain, en marché obligataire.
Voilà, bon, cela dit, c'est moins drôle.
Mais, c'est puissant.
Et donc, ce qui est pour nous une limitation, pour eux, ça n'est pas une limitation. Mais à la fin de la journée, nous devons reprendre notre autonomie stratégique, notre autonomie industrielle. Sinon, on aura effectivement des graves difficultés parce qu'ils sont dans une période où ils ne sont pas là pour nous.
Ouais. Bon, en même temps, on a besoin d'eux aussi et ils ont besoin de nous en termes d'échange. Je veux dire, le protectionnisme, c'est... On a souvent cette image de l'économie ultra-libérale américaine qui s'est quand même convertie au protectionnisme. C'est le thème de ce débat-là, le virage protectionniste des États-Unis. Est-ce que ces échanges ont véritablement baissé entre nous, Xavier Jaravel ?
Au niveau macro, les tendances sont assez faibles. Et d'ailleurs, c'est toujours utile de se rappeler du point de départ, qui est que les États-Unis sont un pays donc très grand et donc en fait relativement peu ouvert d'un point de vue macroéconomique. C'est 15% du PIB américain, l'ampleur des importations. Le pays européen moyen, c'est entre 30 et 50%.
Oui, oui.
Tout simplement, mécaniquement, du fait de la taille du pays. Donc, en fait, se fermer pour un pays comme les États-Unis, c'est beaucoup moins coûteux que ça ne le serait pour un pays comme la France.
Et après, on peut imaginer... On l'a vu sur le pétrole,
Et après, il y a aussi les enjeux énergétiques qui sont majeurs. Toutes les analyses qui ont été faites jusqu'ici montrent que cette politique commerciale a été un échec. C'est-à-dire qu'elle a fait peser des coûts d'abord sur les consommateurs ou sur les entreprises américaines. Et donc ce narratif de Trump qui est de dire que les...
On va faire payer l'extérieur.
Les importateurs, on fait payer l'extérieur. Ça a l'air d'être du bon sens, puisque vous mettez une taxe sur les importations. Mais en principe, ce qu'on appelle l'incidence fiscale, c'est-à-dire les prix s'ajustent. Qui paye effectivement...
C'est le consommateur final.
c'est pas d'ailleurs une loi naturelle que ça devrait être le consommateur, mais il se trouve que dans ce cas-là, les dynamiques concurrentielles sont telles que bah, c'est effectivement quelque chose qui a été passé au consommateur parce que le pouvoir de marché est plutôt du côté de ces importateurs.
Il y a aussi ça ensuite. Ça n'a pas tant été perçu que ça aux États-Unis, je trouve.
Ça a été mesuré de manière très précise dans la première guerre commerciale de 2018.
Oui.
Et là, maintenant, ça fait un an, Liberation Day, donc ça prend du temps parce qu'il y a des phénomènes d'inventaire. Donc, les études qui existent, Alberto Cavallo à Harvard, par exemple, ils montrent effectivement cette hausse progressive de. Mais vous voyez, comme ce n'est que 15% du PIB américain et comme c'est surtout sur certains pays, c'est que 2% du PIB américain qui est vraiment concerné par ces tarifs. Et donc, sur l'inflation agrégée, ça ne va pas être un phénomène majeur. Et donc, en fait, c'est là aussi peut-être c'est plutôt un sujet politique. C'est-à-dire que c'est un narratif qui n'est pas nécessairement immédiatement démenti par les faits parce que l'inflation dépend de beaucoup d'autres facteurs au niveau agrégé. Mais quand vous regardez dans le détail au niveau micro, vous voyez bien que les consommateurs américains ont perdu du pouvoir d'achat et que donc pour l'Europe, il faut avoir une stratégie commerciale qui prenne en compte pleinement tous ces enjeux géopolitiques de dépendance à la fois face aux États-Unis et à la Chine, mais qui résiste à l'appel d'un protectionnisme à tout craint,
oui,
qui est très simple politiquement, sur lequel on s'égare parfois même en France.
Vous trouvez, oui.
Il y a une étude du Haut Commissariat au Plan, pour ne pas le citer, qui faisait cette proposition.
Rédigée notamment par Thomas Grébin, invité régulier des experts, qui propose 30% d'augmentation des droits de douane pour se protéger des surcapacités chinoises.
Voilà, proposition qui jusqu'ici, et j'espère, va continuer de faire l'unanimité contre elle au sein du reste des économistes français, ou quasiment.
Oui. Voilà. Alexandra.
Alors juste deux choses pour rappeler qu'en fait aux États-Unis, enfin il y a la question des droits de douane sur laquelle je vais revenir, mais il y a aussi le protectionnisme plus généralement. C'est pas que les droits de douane.
Oui, on a les normes aussi. Et en fait, des subventions peut-être davantage aujourd'hui.
Et ça, je pense qu'il y a un consensus un peu bipartisan aux États-Unis pour avoir quand même une politique relativement protectionniste. Et ça prédate Trump, comme ça a été très bien dit, c'est-à-dire que par exemple l'Inflation Reduction Act de Joe Biden, c'était protectionniste, c'était principalement pour contrer la domination chinoise. En fait, je pense que vraiment cette rivalité avec la Chine, c'est un facteur explicatif de beaucoup de décisions de politique américaine. Ben oui. Et le seul problème, c'est que ça a des répercussions sur nous.
C'est nous.
C'est pas fait pour nous nuire en première intention, mais en corollaire, ça nous nuit. Donc, le fait qu'il y ait un consensus bipartisan, ça fait que je pense qu'au-delà de Trump, il faut s'attendre à ce changement de logiciel américain. Sur les droits de douane, évidemment, l'effet, il met un peu de temps à se matérialiser quand même. Donc, on n'a pas encore vu tous les effets.
Il y a des allers et retours, effectivement.
Donc, quand on a des droits de douane un peu pérennes, ça dépend aussi sur quels produits on les met, l'élasticité de la demande pour ces produits. Est-ce que ça va être passé sur les consommateurs ou est-ce que les producteurs étrangers vont devoir réduire leurs marges? Tout ça, ça va dépendre vraiment de la structure des droits de douane. Donc, je pense que c'est un peu tôt pour faire un bilan.
Juste pour rappeler sur les droits de douane, parce que, évidemment, je partage, parce que c'est ni plus ni moins qu'un impôt, une taxe levée, en fait, aujourd'hui, dans le jeu. Après, il y a quand même un effet sur lequel il faut être vigilant, et on commence à le voir apparaître sur certains secteurs. Je pense à la santé, je pense à une petite partie de l'industrie. C'est aussi le chantage au financement, c'est-à-dire au fait d'aller réimplanter de la production localement. Et c'est là où le vrai bras de fer. Et puis après, attention aux droits de douane, puisqu'on a vécu le fléchage aussi des exportations chinoises. C'est-à-dire qu'on a derrière un poumon, un muscle, un athlète en termes d'industrie qui s'appelle la Chine. Et là, l'Europe aujourd'hui prend ce tsunami en direct.
Eh oui, au muscle taillé. Éric Lombard.
Oui, sur les tarifs américains, pourquoi est-ce qu'on a convergé vers 15% dans l'accord final ? Parce que l'analyse que faisait le ministère des Finances et que j'ai regardé en grand détail, c'est qu'à 15%, ça nous handicapait pas trop, et on le voit bien d'ailleurs, il n'y a pas eu d'évolution majeure des exportations vers les États-Unis.
C'était le taux le plus bas au monde. Il y avait plusieurs pays qui disaient, mais comment vous avez fait pour négocier 15%?
L'Europe a très bien négocié. Et
on s'est senti humilié quand même, Eric Lombard, la signature dans le Golfe de Donald Trump.
Alors, il y a la négo et il y a l'attitude, et sur l'attitude, on n'a pas été bon. Ouais. Et réciproquement, sinon, la riposte, c'était de mettre, nous, des droits de douane sur nos importations, et ça abîmait notre économie. C'est pour ça qu'on a trouvé ce point d'équilibre qui, manifestement, dans la réalité des faits, n'a pas d'impact trop négatif et a plutôt des impacts, comme vous le disiez, sur l'économie américaine. Alors après, sur le rapport du plan et sur le protectionnisme, entre guillemets.
Deux volets là, dans ce rapport d'ailleurs. Il y a une hausse généralisée des droits de douane pour protéger notamment notre industrie automobile, 15 millions de salariés quand même de 30%. Et aussi, il y a le volet monétaire, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'accusations de manipulation de cours sur le renminbi notamment, et qu'on pourrait piloter l'euro.
Donc ça me fait deux sujets, mais en quatre phrases. Sur les filières industrielles, le désaccord que j'ai avec le plan, c'est qu'on peut pas faire 30% sur tout, et d'ailleurs ça ne sert à rien. En revanche, il faut regarder les domaines sur lesquels il y a du dumping chinois, le documenter, oui. Et on l'a fait, j'y avais beaucoup travaillé l'année dernière, sur l'acier, à juste titre, avec des quotas, des droits de douane. Il faut le faire sur la chimie, il faut le faire sur l'automobile, il faut faire sur toutes les filières sur lesquelles il y a une asymétrie et du dumping. Sur les monnaies, vous vous souvenez qu'il y a très longtemps, il y a eu les accords du Plaza entre les trois grandes monnaies. Le temps n'est plus du tout à des accords de ce type. Donc on peut regretter la sous-évaluation du renminbi et du dollar.
Oui.
Bon, voilà, on note.
On n'a plus les moyens
de toujours en parler aux Chinois. Ils vont nous regarder avec un grand sourire et ça ne fera pas avancer le schmilblick.
Ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Éric Lombard, Ludovic de Sauté, Xavier Jaravel et Alexandra Roulet pour cette émission.